Merci d'être avec nous. On est en osmose et on va marcher pas mal, tiens, ce week-end, puisqu'on va, crapahuter à Avignon, à Villeneuve-les-Avignons, à Pujaut, à Morières-les-Avignons pour aller visiter les différents ateliers d'artistes, puisque c'est l'ouverture des ateliers d'artistes ce week-end, 10e édition. Et aujourd'hui, nous allons parler de calligraphie et de peintre calligraphe, puisqu'elle est peintre calligraphe avec Christine Dabadie-Fabreguette. Bonjour, Christine.
Bonjour.
Je dirai que votre prénom après. Ça m'évitera de...
Pas de problème.
Ça m'évitera d'accrocher. Alors, vous êtes peintre calligraphe.
Oui.
C'est-à-dire, vous associez la peinture et la calligraphie.
Oui. J'ai une formation au départ de peintre occidental, disons, mais je me suis depuis toujours intéressée à la calligraphie extrême orientale. À la calligraphie et à la peinture chinoise et japonaise et coréenne et tout ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer, il y a une cinquantaine d'années, un maître calligraphe. Et donc, j'ai travaillé avec lui pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai aussi pris le relais de l'enseignement à sa demande aussi. Voilà. Mais l'intérêt de cette rencontre, c'était non seulement de pouvoir avoir accès à une tradition très ancienne et très riche, mais de le faire avec quelqu'un qui était dans l'optique de la création contemporaine. C'est-à-dire... Pas de simplement reproduire des choses magnifiques qui ont été faites il y a plusieurs siècles,
d'accord.
Mais
de créer
d'utiliser cette ressource pour créer aujourd'hui un autre type d'écriture plastique, disons. Voilà.
D'accord, mais c'est une discipline très stricte quand même. On ne plaisante pas avec la calligraphie.
Si, on peut plaisanter, c'est pas le problème.
Parce qu'on a cette image, on se dit quand même, c'est super carré.
Il faut apprendre. Oui. C'est comme, je prends souvent l'exemple de la musique, c'est vrai, c'est comme un instrument de musique. Vous acquérez une certaine liberté quand vous avez acquis une certaine technique. Sinon, vous n'avancez pas. Enfin, je veux dire.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Tout à fait. Et donc, c'est la même chose pour le pinceau. Bien sûr, il faut apprendre à s'en servir. Mais une fois qu'on sait s'en servir, c'est un outil absolument magnifique qui est extrêmement proche du geste physique, quoi, qu'on déploie et qui le traduit avec beaucoup de subtilité.
On dit que vous êtes spécialiste du pinceau chinois. Qu'est-ce que c'est que ce pinceau chinois? Il a quelque chose de particulier?
Ah oui, il a quelque chose de très particulier. Il est fait à l'envers des nôtres, d'ailleurs, mais c'est-à-dire qu'il est constitué pour la calligraphie essentiellement en poil de chèvre. On peut trouver d'autres types de pinceaux, mais c'est quand même la base. Donc en poil de chèvre, et la touffe du pinceau est faite de telle sorte que les poils les plus courts sont au milieu et ils sont recouverts par des poils qui sont de plus en plus longs. Et donc quand il est sec, vous avez l'impression qu'il est carré comme ça, mais une fois que vous l'avez mouillé, la robe qui est par-dessus se met en pointe, voilà. Et donc vous avez la possibilité ensuite pour travailler simplement sur la pointe ou d'appuyer un peu plus, de relever, vous avez tout dans le même geste avec le même pinceau.
D'accord.
Vous pouvez tracer des choses très fines ou des choses beaucoup plus fortes. Et puis, les poils courts que vous avez à l'intérieur de la touffe, ils servent de réservoir. Et donc, ça permet aussi que l'encre se déroule petit à petit, progressivement, sur un certain temps, en fonction de la dimension du pinceau, bien sûr, et du geste que vous faites.
Voilà. Alors, la dimension du pinceau, justement, sur votre site, on vous voit avec des pinceaux gigantesques, debout.
N'exagérons rien.
Bah, par rapport à un petit pinceau de... qu'on a à l'école, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui.
Et vous êtes debout sur du papier, hein, j'imagine.
Ça m'arrive de travailler effectivement debout
avec du public autour,
avec des grands pinceaux, oui, parce que ça permet comme ça de déployer le geste et puis que tout le monde voit comment ça se passe, quoi. Enfin, voilà. Et puis voilà, ça permet de faire autre chose qu'avec des petits pinceaux.
Je veux dire, vous travaillez pas toujours comme ça.
Non, je travaille aussi sur une table avec des pinceaux qui sont plus courts. Les pinceaux sont jamais très courts, ils sont toujours un peu longs. On travaille toujours perpendiculairement au plan de travail, le pinceau étant toujours droit.
Ah oui, d'accord.
Il est toujours vertical, voilà.
Ah oui, ça demande un geste précis.
On n'est jamais appuyé sur la table. On travaille, on déplace le pinceau avec le mouvement du corps de façon verticale.
Voilà. C'est très zen.
C'est très zen et c'est aussi lié à cette image de la posture humaine qui est reliée au ciel et reliée à la terre. Et donc l'énergie circule dans ce sens-là, dans les deux sens. Et le pinceau, ben, il essaye de traduire cette énergie.
D'accord. Il faut être ancré sur le sol et
voilà,
voilà, avec cette espèce de ligne qui nous relie à l'espace.
Voilà,
et
voilà.
L'énergie
ici,
universelle.
Et puis en bas.
Ça, c'est intéressant de voir ça même dans, dans l'art, enfin, dans la, dans la façon de retranscrire.
Oui, tout à fait.
Quand on dit calligraphie, on imagine des textes. Mmh. On va voir quelques peut-être exemples sur la vidéo sur Facebook. Ils disent quelque chose, les textes que vous
là,
mettez.
Là, je ne les vois pas. Mais, ah oui. Oui.
Alors,
le texte, en fait,
regardez, oui.
Le texte existe et c'est l'image que vous m'avez montrée, c'est le texte d'un. C'est parti du texte d'un poète coréen du siècle dernier, du 20e siècle. Et à l'époque, on écrivait, les poètes coréens écrivaient en coréen, mais dans son texte, parfois, il utilise les idéogrammes chinois. Et donc, j'ai travaillé à partir des idéogrammes chinois du texte. Et c'est comme un écho au texte. C'est-à-dire, mon idée, c'est pas que les gens lisent le texte, mais pour moi, ça a été un support. Et c'est comme un dialogue entre le poème et moi. Mmh. Voilà. Après, les gens, c'est encore un dialogue avec les gens qui regardent et chaque fois différent.
Enfin, celui qu'on voit en ce moment s'appelle Le rêve de lumière.
Oui, oui. Mmh.
Vous mettez des titres un peu comme ça.
Je mets des titres et qui sont en général pas le titre du poème.
Hein. Ah, d'accord.
Voilà. c'est un. Souvent, je travaille par série, c'est-à-dire même sur le même poème, je vais parfois faire 5-6 œuvres différentes, des fois 10 même. Et le titre, en fait, il est choisi pour essayer d'exprimer cette relation justement particulière avec le poème. Je veux dire, donc c'est un titre qui est lui et moi, mais pas juste son titre à lui.
D'accord. Alors, on a souvent des bandes, hein.
Oui.
Ou alors des cercles. C'est la Terre, un petit peu, j'imagine.
Alors,
si elle terre un seul nid, ça fait partie de.
Voilà.
D'une série que vous faites, je crois.
Ça fait partie d'une série, oui, effectivement. Et, d'ailleurs, que je prolonge par différents travaux actuellement. Au départ, c'est parti justement d'un poème de ce même poète. Et puis, ensuite, j'ai découvert d'autres textes. Et en particulier, ce qu'on appelle un texte calendaire, qui s'appelle le Yueling, qui est un texte chinois, et qui décrit pour tous les mois de l'année les constellations qui dominent à cette période-là et les activités des hommes sur la Terre en même temps. Et aussi ce que le prince doit faire pour que tout ça vive en harmonie. Voilà.
D'accord.
Donc, je continue toute une série sur ce lien entre le ciel et la terre, disons.
Mmh. Voilà. On a les dragons volants, on en voit là quelques-uns.
Ouais.
Alors, numéro 8, numéro 7, c'est comme les parfums Chanel, un peu, vous mettez.
C'est ça, exactement.
Des
numéros. Oui.
Exactement. Ces dragons volants.
Les dragons volants, ils sont partis d'une toute petite phrase d'un critique littéraire chinois qui parlait de la calligraphie de Changchu, et Changchu, c'est un calligraphe chinois. Qui a développé une calligraphie cursive complètement délirante, quoi, voilà. Et donc, ce texte dit que cette calligraphie, elle se balade dans tout l'espace, elle monte aux cieux, elle descend au plus profond de la terre et tout ça, voilà.
D'accord. 7 et 8e siècle, il y a écrit sur votre site.
Voilà.
Je ne fais que citer, hein, ce que je pense, parce que franchement, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout.
C'est pas
grave.
Pourtant,
c'est extrêmement beau, c'est,
Oui, oui.
On sent, hein, quand on les voit, un grand calme. Je pense qu'il faut une grande maîtrise, hein, de soi pour pouvoir dessiner tout ça.
C'est-à-dire qu'on est obligé d'être concentré, parce que si on n'est pas concentré, ça marche pas. Il faut que la tête, le cœur et la main marchent en même temps. L'émotion, la pensée et le geste, il faut qu'ils fonctionnent en même temps. Sinon, on se noie, on est perdu.
Oui, 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 oui. Quand vous parlez, est-ce que vous vous intéressez aussi à la philosophie chinoise, du Lao Tzu, du Yi Qing, des choses des
Alors,
choses
je m'intéresse, je suis pas du tout spécialiste, je suis
non,
pas
non,
compétente.
Mais,
ça m'intéresse
ça
parce
semble
que,
lié un peu.
Voilà, c'est lié et c'est vrai que c'est déjà présent dans la naissance même de l'écriture, qui vient d'un regard sur la nature. Hein. On dit la tradition de l'invention de l'écriture en Chine. C'est le Sangjie, le scribe de l'empereur jaune, qui est un empereur mythique d'il y a des milliers d'années. Et on dit qu'il regarde les étoiles dans le ciel, il regarde les traces des animaux sur le sol, et à partir de là, il invente les caractères d'écriture. Donc c'est une écriture et une pensée qui sont vraiment liées a une très forte un regard très précis sur la nature, quoi, voilà. Hein. Il y a une recherche d'osmose avec la nature.
Ça va le faire, alors.
Je vous le fais exprès.
C'est sympa. Oui, voilà. C'est très contemplatif, c'est ce que vous essayez de dire, en fait. Hein. On regarde la nature, on regarde les éléments et...
Et on essaye de comprendre aussi l'homme qui est compris comme un élément de la nature et pas comme quelqu'un qui est à l'extérieur. Et donc, c'est aussi une façon de se comprendre, de regarder tout ce qu'il y a comme signe de la vie autour de nous.
C'est ce que dit un peu ciel, terre, un seul nid.
Voilà.
C'est un tout, quoi.
Oui.
C'est holistique, comme diraient nos amis indiens. Alors, votre atelier, il est 11 rue de l'Oriflamme.
Oui.
Avignon.
Oui, au premier étage.
Au premier étage. Ah, il faut monter pour...
Ah ben oui.
C'est intéressant.
Il n'y a rien au rez-de-chaussée. Il n'y a que l'entrée.
Je sais pas. J'avoue que je n'y suis jamais allé. Mais là, donc, Christine Dabadie-Fabreguet, on va pouvoir vous voir travailler ou on va juste
Alors,
voir les œuvres?
Alors, samedi après-midi, je ferai une petite démonstration. Alors bon, c'est petit, rue de l'Oriflamme. En fait, pour tout dire, j'ai deux ateliers. J'en ai un à Brantes, dans la montagne, qui est plus grand et... qui est aussi plus proche de la nature, tout ça.
Plus connecté avec
Voilà. Et j'en ai un à Avignon, qui est un peu comme un atelier de voyage, disons.
D'accord.
Qui me permet de...
De poche.
Oui, de poche, c'est ça, voilà. D'accord. Mais je ferai quand même une petite démonstration samedi après-midi, donc à 15h, je crois, on a mis
D'accord.
sur le...
Quand on les voit dans l'atelier, c'est des grands formats, ça fait quelle taille à peu près?
Alors, ce que je mettrai ici à Avignon, ça va faire à peu près 140 par 35 ou 40 de large, en gros, les plus grands.
1m40, hein, 140.
Voilà, bon, 140 centimètres, oui, pardon, pas 140 mètres.
Oui, ou millimètres, c'est pour ça. C'est
140 centimètres par, en gros, 40 centimètres.
D'accord, ça c'est pour les bandeaux, quoi.
Les bandeaux, il y en a qui sont un peu plus petits, voilà. C'est le maximum, ce sera ça. Et puis après, j'ai aussi des formats assez divers qui vont de 20-20 à 60-80 dans des présentoirs, quoi, des dessins sur des... Voilà.
D'accord. On peut acheter sur place?
On peut, oui.
On peut préparer son Noël chez vous?
Tout à fait, autant que vous voulez, oui.
Ouais, parce que avec c'est joli plaisir. Quand même, puis c'est reposant dans le monde, dans l'ambiance dans laquelle on vit en ce moment. Je pense que ça détend quand même.
C'est bien de...
Ça nous pose, on va dire. Christine Dabadie-Fabreguet, je vous remercie.
Eh bien, moi aussi. Mais quand même, je voudrais dire un tout petit mot. Allez-y. Voudrais remercier vraiment très chaleureusement l'équipe qui s'occupe de l'organisation des portes ouvertes. Parce que c'est vraiment... Ah oui, c'est un travail énorme. Moi, j'ai fait des choses comme ça quand j'étais plus jeune. Je sais ce que c'est comme travail. Et franchement, merci beaucoup.
Eh bien, on les salue. Mmh. Avignon Atelier d'Artistes, hein, c'est le nom de l'association. Oui, oui. Et ouverture d'Atelier d'Artistes, c'est le nom de l'événement qui se déroule le 20 et le 21 novembre à Avignon.
20 et 21?
Ne me mettez pas le doute. Bah oui, demain samedi c'est le 20 et
c'est
dimanche
ça,
21.
C'est ça, 20 et 21, on est bien d'accord.
Ne faites pas peur. Moi j'ai un calendrier européen, hein, je suis pas du tout chinois. Donc le 20 et le 21 novembre, c'est de 10h à 18h je crois, peut venir visiter, c'est gratuit, on peut entrer, on fait toc toc et puis découvre les artistes au travail ou alors comme ça pour discuter et faire un brin de causette. Merci à vous.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Bonne ouverture d'atelier.